Donc vous êtes toujours sur Globule Radio, la radio des ours. Retrouvez-nous sur le 90.7 FM si vous êtes à Valorcine ou à Trien. Ou carrément, rejoignez-nous au chalet de la réserve où nous sommes installés dans un cadre de dingue. Alors imaginez, on est dehors face à la montagne, on voit que ça, hein, du vert et un petit bout des aiguilles rouges. Et d'ailleurs, je suis en compagnie de Alex Bruno, responsable du lieu et animateur nature. Bonjour Alex, merci de venir au micro de la radio des ours.
Bonjour, bonjour à tous et merci à vous d'être là, de faire un petit peu plus d'animation sur ce lieu de passage.
Bah, on est super contents et super bien installés. Donc le massif des aiguilles rouges, dont le nom vient de la teinte rouge de la roche due à l'oxydation du fer sur le gneiss. C'est ça. Hein.
Ouais, vous êtes bien renseigné.
Bien
bravo.
Renseigné. Hein. Regroupe donc 3 des 167 réserves naturelles. Ouais, c'est toujours juste.
C'est toujours juste, effectivement.
Des 167 réserves nationales.
Ouais, exactement. Voilà. Et en Haute-Savoie, il y en a 9. 9 en Haute-Savoie. Donc 3 réserves naturelles sur le territoire de la vallée de Chamonix. Qui sont les 9. Oh là, attention, c'est court.
Allez, challenge.
Alors on a le détat de la, on a 3 qui sont lacustres, on a le détat de la Drance à Thonon à publier. On en a 2 sur le lac d'Annecy, le Roc de Cher et le Bout du Lac, et ensuite on en a donc 3 chez nous, Vallon de Bérard, Aiguille Rouge et Carlaveron, et ensuite on en a une autre sur les Contamines, une sur Passy et une sur Sixte, et on est à 9.
OK. Donc pour bien comprendre, le chalet de la réserve regroupe 3 réserves, c'est ça?
Alors,
s'intéresse à 3 réserves.
Effectivement, ici, on est une des portes d'entrée de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Et quand on parle des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, on parle donc de ces 3 réserves naturelles qui fonctionnent un petit peu ensemble, même s'il y a au niveau de la réglementation, quelques réglementations qui diffèrent d'une réserve à l'autre. Mais effectivement, on parle des réserves naturelles des Aiguilles Rouges dans son ensemble. Et ici, on est donc la porte d'entrée de ces réserves naturelles où les gens passent ici pour remplir leur bouteille d'eau, pour avoir de l'information sur la réserve naturelle. Et nous, on les accueille avec grand plaisir et avec joie pour leur donner toutes les informations qui sont nécessaires d'avoir quand on va en réserve naturelle, parce que bah, effectivement c'est des endroits qui sont préservés, protégés pour protéger la nature, et donc on met en place une réglementation, et nous notre mission d'animateur c'est donc de faire passer ces messages de réglementation, de respect de l'environnement et pour que la randonnée se passe le mieux possible.
Ouais, alors il y a les règles, quelles sont ces règles sur ces 250 km de sentier, je crois.
Ouais, c'est
j'ai plein de chiffres.
Ouais. Alors on va jouer dans un moment à qui veut gagner le meilleur chiffre. L'idée en fait dans une réserve naturelle, c'est donc de préserver l'environnement. Et le contexte des réserves naturelles des Aiguilles Rouges est différent d'une réserve naturelle lacustre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc du coup, les réglementations sont différentes. Pour parler des grandes règles de la réglementation, parce qu'il y en a qui découlent derrière. C'est par exemple, les chiens sont complètement interdits dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, même en laisse. Derrière, ça va être des réglementations autour de la cueillette aussi. On n'a pas le droit de cueillir des fleurs. Si on cueille une fleur, par exemple, et ben on va être amené à couper le cycle de la plante. Et donc, la plante, ben derrière, déjà, elle ne sera pas observable par les autres randonneurs qui sont derrière. Et c'est dommage. Et puis surtout, la plante n'aura pas eu le temps de se reproduire. Et donc, ça ne donnera pas de plante l'année prochaine. Donc, la cueillette est interdite. On a d'autres interdictions, par exemple, au niveau du survol. Le survol, tout ce qui est motorisé, donc le drone en fait partie, c'est interdit en dessous 1000 mètres d'altitude. Donc voilà pour les réglementations. Et puis on a des choses qui sont tolérées. Je parle notamment du bivouac, où le bivouac est toléré de 19h le soir à 9h le matin. Donc en dehors de cette plage horaire, 19h, 9h, il n'y a pas de tentes qui sont montées sur le territoire de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Voilà un petit peu pour les 3 grandes interdictions et qui font l'objet aujourd'hui des plus grands nombre d'infractions sur le territoire de la réserve naturelle.
Ah oui, parce que et ici donc à la réserve vous avez une mission pédagogique, il vous faut expliquer, les gens comprennent,
Exactement, ici du coup on fait de l'animation, on n'est pas garde du tout de la réserve, on est là pour faire passer le message que les gens rentrent en réserve naturelle et donc du coup qu'il y a cette réglementation qui doit s'appliquer, mais on est aussi là pour les éduquer à la nature, à cette nature montagnarde, parce que ce qu'on se rend compte depuis plusieurs années maintenant, c'est que la fréquentation de la vallée de Chamonix a un petit peu changé et c'est très bien. bien, parce que ça va... Heureusement qu'il y a du changement et que les choses bougent, mais que les gens qui arrivent aujourd'hui randonner dans la réserve naturelle n'ont plus cette culture de la montagne, cette culture montagnarde est un petit peu déficitaire. Et donc, nous, notre objectif, c'est donc de leur poser des bases de respect de l'environnement, de respect de la montagne, qu'on ne part pas pour une randonnée de 6h à 13h de l'après-midi, par exemple, qu'effectivement, quand on monte au lac Blanc, eh ben, on n'a pas forcément de point d'eau en dehors du refuge, que la baignade dans les lacs, effectivement, même si c'est une activité qui n'est pas réglementée par la réserve naturelle, c'est pas une activité qu'on va plébisciter, qu'on va encourager. Donc tout ça, plus l'observation et l'explication de cette observation qu'on fait de la nature, comment on faire la différence entre un chamois et un bouquetin, par exemple. Ce sont tous ces messages-là et tant d'autres qu'on est amené à parler ici au Chalet du Col des Montais, grâce notamment donc aux animateurs nature qui sont présents, puis aussi aux animateurs stagiaires qui sont en stage à Larnard et qui font vivre ce lieu depuis maintenant plus de 40 ans.
Oui, c'est un milieu fragile. Il est nécessaire en fait d'en prendre soin. Et j'ai envie de citer le fondateur de Larnard, que vous connaissez, Jean
Hérald. Ouais, c'est dur à dire. Hein. C'est écrit avec plein de H et des Y, Jean Hérald.
Jean Hérald, respecter la nature, c'est respecter les autres. Lorsque tout le monde en aura conscience, les réserves pourront disparaître. Donc c'est vraiment votre mission. C'est ce que vous venez de nous raconter.
Exactement. Et lui, dans son utopie, il voulait... Alors moi, j'aime bien dire que c'est grâce aux remontées mécaniques qu'on a des réserves naturelles, parce que les remontées mécaniques, dans les années 70, ils avaient des projets d'exploitation de quasiment tout le versant des aiguilles rouges, et notamment des envers. Il y avait des projets de remontées mécaniques complètement farfelus. Et c'est grâce à ces projets-là qu'il y a certains précurseurs et fondateurs se sont dit non mais il faut absolument qu'on préserve une partie de ce massif, et donc j'aime bien dire que c'est grâce aux remontées mécaniques qu'on a nos réserves naturelles aujourd'hui. Et effectivement, dans la tête de ces précurseurs et de ces fondateurs, l'idée c'était de dire on classe en réserve naturelle, puis à un moment donné ça va rentrer dans la culture collective de dire quand on aménage la montagne, on en aménage qu'une petite partie et le reste est fait belle place à la nature. Et mais on se voit
c'était visionnaire,
mais on voit que 50 ans plus tard, la réserve naturelle est toujours là et on en a encore bien besoin.
Et vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le chalet de la réserve, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs acteurs, donc le chalet de la réserve, Larnard, l'association, et Aster.
Ouais, alors c'est vrai que quand on en parle aux gens, c'est vrai que c'est difficile des fois de s'y retrouver, mais aujourd'hui on cohabite assez bien tous ensemble, même très bien tous ensemble. L'idée en fait, c'est que comme il y a différentes structures qui ont différentes choses, l'idée c'est d'essayer de travailler ensemble autour des réserves naturelles et de ce chalet d'accueil. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc le chalet d'accueil fait partie est propriétaire de la commune de Chamonix. Donc les murs font partie de la commune de Chamonix. À l'intérieur de ce chalet, pour y faire vivre et pour animer ce chalet, donc c'est la communauté de communes aujourd'hui qui fait vivre le chalet du Col des Montais, mais elle le fait pas toute seule, elle le fait avec l'ARNAR, qui est l'association des réserves naturelles des aiguilles rouges et qui est donc la fondatrice des réserves naturelles. Aujourd'hui, ce sont deux acteurs qui sont vraiment liés par leur histoire et par tout un tas de conventions, etc., qui permettent à chacun de trouver sa place. Et donc, du coup, il y a Aster, qui est le gestionnaire des réserves naturelles, qui en fait est délégataire de par l'État de la gestion des réserves naturelles de Haute-Savoie et donc des trois réserves naturelles des Aiguilles Rouges. Et donc ici sur ce site, vous avez notamment donc trois structures, la communauté de communes de la Vallée de Chamonix et l'Arnard, qui travaillent ensemble pour faire vivre ce lieu. Et Aster sont pas présents sur le lieu, mais font partie dans le chalet entre guillemets, mais font partie du paysage parce qu'ils sont gestionnaires de la réserve naturelle. Et donc embauchent les gardes et font mettre en place le plan de gestion.
Et ont des missions telles que la préservation.
Exactement, suivi scientifique de la réserve, font aussi de la garderie, donc les gardes de la réserve naturelle qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça que Marion ne peut pas être là tout à l'heure, parce qu'elle est en mission de surveillance dans le Vallon de Bérard pour regarder si les gens ne font pas des feux de camp. Autre règle qui est interdite dans la réserve naturelle.
Évidemment.
Voilà. Pour expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne.
Donc tous les jours, il y a des gens qui arpentent les réserves, des gardes qui arpentent les réserves pour vérifier que les règles
soit respectée.
De base, ouais. de protection de la nature soit respectée.
Et ouais, exactement. La fréquentation de la réserve naturelle des aigus rouges, pour vous donner quelques chiffres, parce que depuis tout à l'heure, on est dans les chiffres. Aujourd'hui, c'est presque 3000 personnes jour au lac Blanc. Donc, c'est un lac Blanc qui est en réserve naturelle. On a des éco-compteurs qui sont positionnés un petit peu partout sur les sentiers. Et chaque éco-compteur, alors en fonction de la disposition...
Un
éco-compteur, c'est un système qui permet de compter le passage sur un sentier. Voilà, donc un randonneur qui va passer devant l'éco-compteur ou sur l'éco-compteur et donc va déclencher, et donc ça nous permet d'avoir des données de fréquentation. Et aujourd'hui, le sentier qui monte au lac Blanc depuis le col des Montées, il y a un éco-compteur qui est posé dessus, et c'est presque plus de 30 000 personnes par an, par exemple. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup énorme. De fréquentation sur la réserve naturelle des aigus rouges, aussi bien en été qu'en hiver en ski de randonnée. Et donc, les gardes, qui sont 1,5 à l'année, on va dire, un petit peu plus, sont là, effectivement, pour veiller à ce que cette fréquentation respecte au mieux la réglementation des espaces protégés.
Ok. Voilà. Donc, cette réserve, c'est à la fois un formidable belvédère sur la chaîne du Mont-Blanc, sur tout le massif alpin, une carte postale alpine... un laboratoire scientifique, c'est plein de choses. Vous pouvez nous raconter les écosystèmes et les biotopes qu'on trouve, ici.
Bien sûr. Alors ici, en fait, on a la chance de... Alors je vais dire un gros mot, ça sera le seul, ça sera le mot de gradient. Le gradient, c'est le fait qu'on a, et le CREA en parle très très bien, qui est le centre de recherche des écosystèmes d'altitude, c'est le fait d'avoir sur une plage altitudinale... une température qui évolue au gré de l'altitude. Et donc, la réserve naturelle de Chamonix, les réserves naturelles qu'on trouve dans la vallée de Chamonix ont un gradient absolument extraordinaire, parce qu'on part de presque 900 mètres d'altitude au plus bas pour la réserve naturelle de Carl-Aveyron, et on monte à plus de 2500 mètres avec les sommets du Belvédère, notamment, qui culminent à plus de 2700 mètres. Et donc, le long de ce gradient, on rencontre bon nombre d'écosystèmes, avec en bas la forêt de l'étage montagnard, presque de l'étage collinéen, qui est en train doucement d'arriver, mais de l'étage montagnard, donc une forêt qui est composée de résineux, ici majoritairement l'épicéa. Quand on est sur le versant vers l'Orcine, on a du mélèze, donc le mélézin, qui est un arbre vraiment... endémique de la montagne. Alors endémique, c'est qu'on retrouve qu'en montagne, voilà. Et puis plus on va monter, plus la forêt va se faire rare, et donc la forêt, on va arriver dans une zone qu'on appelle la zone de combat, où les arbres vont combattre pour leur survie, et laisser en place doucement avec des essences plus arbustives,
qui ressemblent
à des arbustes, les rhododendrons notamment, et qu'on appelle ça, cette zone de combat, qui est donc la lande, qui est un endroit vraiment très riche, parce qu'on est dans une zone de contact entre l'étage montagnard qui est en bas et l'étage subalpin et l'étage alpin. On est vraiment dans cette zone, cette limite là, et donc on est dans une zone de contact, et c'est une zone du coup qui est très très riche, parce que à la frontière entre deux mondes, et où on va retrouver des espèces qui sont vraiment emblématiques des Alpes, et des Alpes du Nord notamment, avec le tétralyre ou le chamois par exemple. Voilà. Et si on continue de monter, on arrive vraiment dans l'alpage. Donc là, c'est les pelouses alpines, avec les fameuses marmottes, avec le bouquetin, avec des espèces un petit peu moins communes, qui sont le lagopède alpin, qu'on rencontre beaucoup sur le territoire de la réserve naturelle des aigus rouges. Et puis plus on va monter, plus la flore va se faire rare, plus on va être dans un monde qui est minéral, qui va laisser place dans le vallon de Bérard, au dernier glacier du massif. Et puis derrière, on est vraiment sur des pitons rocheux, où on a l'impression qu'il y a peu de vie, mais les cailloux sont recouverts de flore, notamment de lichens, qui sont des témoins du retrait glaciaire, parce que un lichen va grossir en forme de talle, et en fonction de la taille de cette talle, on va être capable de savoir à partir de quand, depuis combien de temps le caillou est à l'air libre et donc est découvert par le glacier. Et donc ça, c'est des études qui sont menées sur la réserve naturelle. Et l'idée, en fait, c'est... Les réserves naturelles ont été aussi créées pour ça. C'est des témoins de l'évolution des paysages. Et donc, on mène des protocoles scientifiques. Alors, c'est Aster qui pilote ça. Puis, on a d'autres laboratoires de recherche qui mènent des études pour voir un petit peu l'évolution des milieux en réserve naturelle. Parce que, comme on a une réglementation qui s'applique, on a des activités humaines qui sont réglementées. Et ce sont des formidables témoins de toutes ces évolutions. Voilà. Avec le réchauffement climatique, forcément, il y a des choses qui changent, qui s'accélèrent, d'autres qui ralentissent. Et donc, ça permet d'être un témoin de toutes ces évolutions en cours.
Fabuleux, mais il y a tout un champ de recherche incroyable. On pourra en parler des heures. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Alex, d'être venu au micro de la Radio des Ours.
Avec plaisir. Et
quelque chose à rajouter, peut-être, sur le chalet de la réserve?
Eh bien, le chalet de la réserve est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. On vous accueille avec grand plaisir et bonheur. On fermera nos portes le 18 septembre pour les rouvrir à la Toussaint. Et ça, c'est tous les ans comme ça. Donc, on les ouvre à l'Ascension pour les fermer mi-septembre et on les rouvre à la Toussaint, nos portes. On accueille presque 30 000 à 50 000 personnes par an. Donc, ça fait de la fréquentation. On est très content de l'avoir. On clore une semaine qui était un peu spéciale pour nous avec la semaine de la biodiversité, avec beaucoup d'animation. Et puis, que dire de plus?
Et une nouvelle scénographie peut-être?
Exactement, ouais, j'allais en venir. On a rouvert nos portes le 9 juillet avec une toute nouvelle scénographie où tous les acteurs que je vous ai cités tout à l'heure ont participé à mettre en place cette scénographie, ont participé à la relecture. Et c'est un travail de longue haleine de 3 ans et je remercie chacun des acteurs. Et donc, venez voir ça parce que je crois, pour avoir eu des oreilles un petit peu indiscrètes, qu'elle est très appréciée de tous nos visiteurs.
Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup Alex. Et puis venez au chalet de la réserve pour découvrir toute la richesse de ces réserves naturelles des Aiguilles Rouges.
Merci beaucoup, merci à vous. Et puis bon été.
Merci, vous aussi. Et on retrouve l'agenda de Valorcine pour aujourd'hui et demain, après que Radio Elvis ait terminé sa moisson.